Bonjour à chacun, soyez. La bénédiction de l'Éternel soit sur chacun de nous ce matin. À quel autre irions-nous qu'à toi? Et nous ne savons pas comment, mais nous y sommes allés. Nous savons maintenant, pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, que nous cherchions, on ne savait pas trop quoi, on était bien égarés. Et lui nous a trouvés. C'est extraordinaire. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Timothée, tout à l'heure, priant au temps de la Sainte Cène, a dit ceci: la puissance de Dieu se révèle au quotidien dans nos vies. Et quelque part, c'est un peu de cela dont je vais parler ce matin. Nous allons, le titre de mon message, c'est Jésus en Samarie. Alors nous allons méditer sur le texte de Jean 4, hein, qui est bien connu, dit le passage de la Samaritaine, mais avec une orientation peut-être un peu particulière. Vous savez que dans la Bible, il y a des fois des choses qui semblent non pas se contredire, mais qui ne vont pas tout à fait comme ça dans le même sens à première vue. Par exemple, dans l'Ecclésiaste, il nous est dit « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Et puis, dans Jean 3, dans le passage de Nicodème, j'y reviendrai, il est mis « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Et puis il y a des passages dans Galates, par exemple, Galates 5 nous dit « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, ne vous laissez pas remettre sous le joug de la servitude. » Mais quelques versets après, Paul nous dit « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, seulement ne faites pas de cette liberté une occasion de vivre sur la chair. » Alors, que faire? Que faire au milieu de souvent la marche chrétienne semble incertaine. Dans le désir de plaire à Dieu, nous désirons agir selon sa volonté. Alors, certains mettront en avant qu'il ne faut rien prévoir. L'Esprit souffle où il veut. D'autres mettront en avant l'obéissance, jusqu'à parfois y trouver une justification par les œuvres. Finalement, la marche par l'Esprit est un défi. Et ce matin, je voudrais donc qu'on médite à partir de ce passage en regardant Jésus dans son parcours. Comment il arrive là et ce qui se passe. Nous allons regarder ces textes, Jésus en Samarie. Alors je lirai deux textes, je lirai Jean 4, le passage principal. Et puis nous irons voir dans l'Ancien Testament, mais dans le fond, qui sont ces Samaritains? C'est intéressant. Et donc, nous arrêterons peut-être plus sur le contexte de cette situation, plus que sur la femme samaritaine elle-même ce matin. C'est un passage sur lequel des messages beaucoup sont apportés. On va regarder peut-être les choses un peu différemment ce matin. Alors, je vous invite à lire d'abord dans Jean au chapitre 4. Les versets 4 à 42. Vous savez que j'aime profiter de ce moment de culte et mes frères qui apportent le message aussi pour lire quand même de bons extraits de la parole de Dieu. Ça fait une occasion, peut-être certains n'ont pas le temps chaque jour, hein, on peut se laisser happer. Eh bien, nous allons lire la parole de Dieu, c'est toujours une bénédiction puisqu'elle est à notre disposition et que nous pouvons le faire librement. Alors, Jean 4, à partir du verset 4. « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, donc les tribus de Juda et Benjamin, hein, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où es-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Je rappelle que là, ça fait allusion notamment au fait que, après la séparation des deux royaumes, le royaume du Nord avec Jéroboam, on y reviendra, avait institué un culte à Samarie, contrairement au commandement de Dieu qui demandait qu'on le célèbre à Jérusalem. Mais Jéroboam, ayant peur que ses compatriotes retournent vers le sud, a préféré mettre quelque chose à Samarie en désobéissance à Dieu. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera devenu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu ?» ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse les fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Passage extrêmement riche, il y a cette femme centrale et on voit tout de suite l'effet que ça a eu ensuite de la bonne nouvelle de l'évangile qui est répandue déjà sur toute une ville. Nous verrons le contexte dans lequel cette histoire a démarré. Et je voudrais donc qu'on lise pour bien comprendre qui sont les Samaritains. Nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le Deux Rois, le deuxième livre des Rois, au chapitre 17, les versets 24 à 41. Ce passage se situe, j'ai peut-être eu l'occasion de le dire un petit mot il y a quelques dimanches, mais pour ceux qui n'étaient pas là, lorsque le peuple hébreu a été mené en exil, l'Assyrie a envoyé des populations, un schéma très classique, pour coloniser. Et seulement, il y a un petit problème, vous allez le voir. Donc, 2 rois 17, les versets 24 à 41. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cutha, d'Ava, d'Amas et de Séphravaïm et les établit dans la ville de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. » Et il envoyait contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre. « Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmené de là en captivité, qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été amené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, les gens de Cut firent Nergal, les gens de Hamas firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibkaz et Tartak, ceux de Séphravaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Séphravaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu, d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs lois, ni à leurs ordonnances, ni à la loi, ni aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux, leur avait donné cet ordre. Vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifice, mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, les lois et les commandements qu'il a prescrits, qu'il a écrits pour vous et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Je crois que c'était important, nous reviendrons quelques commentaires sur ces textes. Voilà où se trouve Jésus. Je voudrais d'abord souligner que les circonstances dans lesquelles Jésus se trouve là, sur le puits, sont des circonstances tout à fait ordinaires. Quand on reprend ce texte de Jean, il est dit « comme il fallait qu'il passât par la Samarie ». Il devait passer d'une région à l'autre. Il retourne en Galilée parce qu'il y a des choses qui se passent en Juda. Il fallait que Jésus passât par la Samarie. Rien de plus simple. La route passe par là. Il passe donc par la Samarie. Jésus fatigué du voyage. Jésus, vrai homme, connu notre condition humaine, fatigué du voyage, de la chaleur, était assis au bord du puits. Il était midi, plein cagnard, excusez-moi l'expression, il faisait chaud. Jésus était fatigué. Ses disciples, quant à eux, ils sont partis faire les courses. Il faut bien manger. Ses disciples sont partis acheter des vivres. Enfin, circonstance tout à fait ordinaire, une femme vient puiser de l'eau au puits. Des circonstances bien ordinaires, on dirait pas là, la préparation d'un grand ministère pour une campagne d'évangélisation. Jésus est dans une vie tout à fait ordinaire, dans ses circonstances quotidiennes. Le voilà donc conduit par ses circonstances en Samarie. Le texte que nous avons lu sur les Samaritains montre qu'on ne peut pas dire que ce soit le cœur de la piété au Dieu unique d'Israël. Samarie, cette ville a été créée par Omri, un roi d'Israël, un roi du royaume du Nord, qui tire son nom de Shemer, seigneur de la montagne, seigneur des hauts lieux. Cette ville est créée dans la lignée de la désobéissance de Jéroboam, comme je disais tout à l'heure, qui craignait que son peuple aille adorer à Jérusalem. Ça nous est expliqué dans 1 Roi 16, au verset 23. Samarie, c'est la capitale de l'idolâtrie et conséquence de l'idolâtrie de Salomon. Dans le texte que nous avons lu, je voudrais souligner quelques aspects. Donc, le roi d'Assyrie a fait occuper ce territoire qu'il a vaincu. Je rappelle que c'est Dieu qui a provoqué cet exil de son peuple et qui permet que l'ennemi, l'adversaire, occupe le terrain. Et il rencontre ce que rencontrent beaucoup de dictateurs lorsqu'ils occupent des territoires qui ne sont pas leur nation. Eh bien, ils ont des problèmes d'intégration des différentes populations en fonction de leur tradition religieuse. Et je pense qu'il y a là une actualité, je voudrais le souligner, parce que dans tout ce que je vais vous dire, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'on vit. Aujourd'hui, le sujet de la laïcité, de la coexistence de diverses religions, c'est tout un sujet. Vous noterez que les autorités traitent les religions tout au même niveau. C'est ce qu'ils avaient comme problème à résoudre. Et il y a le problème de chaque nation, ça nous est dit abondamment dans le texte, viennent avec leurs traditions religieuses, les traditions religieuses, ou philosophiques, ou leurs idoles, ou leur culte plus ou moins occulte. Tout le monde vient avec son truc, et ça coexiste. Et là, les commissaires viennent signaler au dictateur, il y a un problème là, tu as envoyé tout un tas de populations, sauf qu'ils ne savent pas servir le Dieu, avec un petit D et un petit L, le Dieu du pays. On a conquis Israël, là, et ils ont un Dieu, mais manifestement, on ne sait pas bien servir leur culte. Alors, il dit qu'à cela ne tienne, on va envoyer un de leurs prêtres. Je souligne que les prêtres et les sacrificateurs d'Israël, royaume du Nord, n'étaient pas de la tribu de Lévi. Donc ils étaient déjà institués en désobéissance à ce que Dieu avait prescrit. Nous voyons là, nous sommes dans toutes les conséquences d'une rébellion énorme suite à l'idolâtrie de Salomon. Pour ceux, on parle souvent de ces textes, regardez bien ce qui se passe. Salomon s'est détourné, lui qui avait tout reçu. Il y a des conséquences terribles, des siècles après, jusqu'ici. Et donc, il nous est dit dans le texte, un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Chacun amenait ses petites statues, ses petites amulettes, ses petits machins, etc. On a chacun ramené son petit matériel. En fait, la nouvelle religion vient s'ajouter aux cultes et diverses philosophies déjà en place. Quelle actualité ! Cela ressemble tellement à ce qui est véhiculé aujourd'hui, l'inclusion à tout niveau. On inclut, on agrège. Allez, un petit peu plus, un petit peu moins, il n'y a pas de problème. Un petit peu de yoga, un petit peu de ceci, un petit peu d'hypnose. C'est bon tout ça, ça va. Ça ne fait pas de mal. Ah oui ? On est là. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bénoth, leur dieu qui s'appelait Juge suprême. Les gens de Cust firent Nergal, Dieu du soleil, sous l'aspect d'un feu destructeur, maître des régions infernales, dieu de la guerre et des épidémies. D'autres brûlaient leurs enfants. Allons-y. En l'honneur d'Adramélec. Adramélec, à nouveau, la divinité du soleil. Vous savez, le soleil, dans beaucoup de religions, y compris celle se disant parfois chrétienne, a pris une place. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé au IVe siècle avec l'empereur Constantin. Il y a eu une christianisation des cultes païens. On est dans ces schémas. Le résumé de la situation, c'est le Dieu d'Israël, devenu un Dieu parmi les autres, servi par des hommes non mis à part, servi selon les règles mises en place et les traditions mises par l'homme, et non selon le commandement de Dieu. C'est un des aspects, on dit il n'y a plus de sacré, si il y a un sacré. Et on n'honore pas Dieu, et on ne rend pas un culte à Dieu comme on a envie de le rendre, mais comme il le souhaite. Alors le parallèle à notre temps, et je m'arrêterai là, c'est l'ouverture à toute pensée, c'est le relativisme, c'est l'inclusion, c'est ne pas juger tout équivalent, tu as le droit de croire ça, si ça te fait du bien. Tu crois cela, et moi je crois cela. J'aurais souligné, concernant le dialogue interreligieux avec ses limites, ces mêmes Samaritains, au temps d'Esdras, ont proposé de travailler à la reconstruction du temple. Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Bon, parmi d'autres. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradom, donc le temps dont on vient de parler. Roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici. C'est les Samaritains qui proposaient de construire avec. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles leur répondirent : ce n'est pas à vous, mais à nous, de bâtir la maison de notre Dieu. Nous les bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné Cyrus, roi de Perse. Il y a là quelque chose d'important. Comprenez-moi bien. Nous sommes destinés, je vais y revenir ensuite, à être des témoins, à briller, à nous faire tout à tous. Mais nous ne pouvons pas nous associer, ce qui est différent. On peut être présent tout à tous et chacun a votre vie, je vais y revenir. On est placé dans des situations comme Jésus se trouve placé au bord du puits de son quotidien. Une chose est d'être au milieu d'eux, une autre chose est de s'associer pour rendre un culte à notre Dieu. Ce Dieu est saint et si nous n'acceptons pas d'être séparés des choses de ce monde pour l'honorer, nous lui rendons un culte qui ne lui plaît pas. Voilà donc Jésus, assis au bord du puits, dans son quotidien. Et là, va se passer quelque chose d'extraordinaire. La grâce et la vérité vont venir au sein de cette confusion. Parce que la Samarie, c'est vraiment l'image de la confusion religieuse. Mais là, au sein de cette situation, alors qu'il est assis au bord du puits, il va simplement, avec un mot, déclencher les opérations. Donne-moi à boire. Et là, ça va être l'occasion pour Jésus. À partir, notez la surprise de cette femme. Mais tu me demandes à boire ? Toi, un juif, à moi, une samaritaine, après ce que je viens de vous dire de la Samarie. Jésus est au courant de ces choses. Vous voyez, il est au milieu de la confusion, au milieu du désordre. C'est la confusion dans la tête de cette femme, pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Mais Jésus est là. Et c'est ça qui va déclencher quelque chose. Elle est, quelque part, il va à l'encontre de la règle, même de la loi. Les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains, pour les causes d'idolâtrie et de confusion complète. Jésus tranche, et cette femme lui dit, mais oui, en effet, pourquoi ? Pourquoi tu me parles à moi, en plus une femme ? Qu'est-ce qui permet à Jésus et qu'est-ce qui se passe là ? Le premier point, c'est que Jésus connaît parfaitement son identité. Il va dire à un moment à ses disciples qui ne comprennent pas non plus ce qui se passe, il dit « ma nourriture, ma viande, selon la traduction Darby, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus connaît son identité, il connaît sa mission. S'il déclare qu'il est venu accomplir la volonté de son Père, c'est donc bien qu'il est le Fils, et donc le Fils de Dieu. Et sa mission, il ne vient pas simplement attester que la parole annoncée par les prophètes est vraie, il vient l'accomplir. Il ne vient pas avec simplement l'eau de la parole, mais avec le sang, il sait qu'il vient pour livrer sa vie. Il donne sa vie pour que Dieu puisse venir habiter, non plus parmi nous, au milieu de nous, mais en nous, par son Esprit. 1 Jean 5, verset 6 nous dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau, avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Jésus connaît son identité, il connaît sa mission. Il peut donc être assis là et il est toujours prêt, dans les circonstances du quotidien, à annoncer ce qu'il est venu annoncer. Deuxièmement, Jésus est prophétique. Et dans ce texte, on voit qu'il annonce ce qui n'est pas encore, mais qui va bouleverser la vie de ses compatriotes. L'eau de la parole qui va révéler le sens des Écritures et ce qu'annonce la loi qui a vieilli et qui est près de disparaître. Il va venir faire que des hommes appelés à devenir temple de Dieu par la venue de Christ dans le cœur par le Saint-Esprit, qui fait passer de la loi qui conduit à la mort, à la surjaillissante, ce qu'il énonce là, le don gratuit de Dieu, la vie éternelle. Mais vous voyez dans ce passage, je voudrais qu'on saisisse bien ça, Jésus est dans son ministère terrestre et il annonce des choses qui ne sont pas très compréhensibles, honnêtement. Qui ne sont pas très compréhensibles. Et c'est vrai que cette position de Jésus lors de sa première venue sur la terre est particulière. Tandis qu'il vient manifester et accomplir au milieu du peuple qui a été formé pour cela le plan du salut, il doit renverser ce qui a été établi par Dieu même, la loi, mais qui a été établi jusqu'à un temps de réformation. Et au lieu d'être accueilli comme tel par le peuple qui a été préparé pour ça, il va être rejeté par ceux qui ont confisqué finalement ce qui leur avait été confié pour éclairer les nations. Et dans cette scène, Jésus, c'est le début de la confrontation qu'il va avoir avec la religion d'Israël, pourtant basée sur la parole de Dieu, mais qui au fil des siècles a été confisquée par ceux qui devaient la servir. Ainsi, la vie prophétique, c'est toute la vie de Jésus qui est prophétique, conduit, et c'est toujours le cas, à n'être pas compris. C'est le troisième aspect que je voudrais souligner dans ce passage. Jésus accepte de n'être pas compris, y compris dans les paroles qu'il a dites. Alors, on pourrait dire aujourd'hui, faut faire attention quand on parle, faut quand même soigner la communication, etc. Oui, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas être provocateur. Mais voyez, Jésus, mais posons-nous la question, quand on commence à penser à ça, est-ce que vraiment c'est parce qu'on veut se mettre à la portée, ou c'est parce que, quelque part, on craint, oui, mais je vais être moqué. On a souligné ce qui s'est passé à la croix. Il y a un des aspects à la croix, je lisais ça dans une méditation ce matin, la moquerie. Combien Jésus a été moqué? Combien Jésus a été moqué dans ce qu'il a dit? Il a été moqué en tant que roi par les Romains, tourné en dérision. Ici, nous voyons qu'il va dire des choses qui ne sont pas compréhensibles pour la femme. Et ce n'est pas la première fois. Dans l'évangile de Jean, nous avons vraiment de nombreux passages où Jésus dit des choses qui ne sont pas compréhensibles avec Nicodème. Il te faut naître nouveau. Nicodème, il ne comprend rien. Jésus, on dirait, il ne fait pas d'effort. Il ne fait pas d'effort pour être compris, pour être admis. Dans le passage que nous considérons aujourd'hui, c'est pareil, c'est pas très compréhensible. La femme d'ailleurs n'y comprend rien, mais tu me demandes de l'eau, mais le puits est profond. Puis des paroles un peu mystérieuses. Comprenons, il est prophétique. Je vais y revenir pour nous tout à l'heure. Encore d'autres passages dans Jean 5. Si vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez cette opposition croissante aux paroles de Jésus. Et de temps en temps, humainement, on se dit, mais enfin quand même, il aurait pu expliquer un peu. Il va même dire, je vous dis ces choses, pour l'instant, vous ne pouvez pas les comprendre. Dans Jean 6, si vous ne mangez ma chair et buvez mon sang, mais ces paroles sont dures, qui peut l'entendre? Même si, comme ça a été rappelé tout à l'heure, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Dans Jean 8, ce débat avec les religieux qui montent en puissance et en opposition, et ça se termine à un moment, Jésus est amené à dire, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Waouh ! Seigneur, tu ne nous demandes quand même pas ça, de supporter une telle opposition. Alors, c'est quoi les leçons pour nous de tels passages, de telles situations? Jésus, dans son quotidien, dans sa fatigue, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Nos temps ordinaires. Eh bien, les temps ordinaires, quand nous les vivons, c'est la part que nous avons à faire. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Apprendre à vivre au quotidien, à notre place, dans la fidélité, sans revendication, sans voir tous les jours des choses extraordinaires. Temps ordinaires, pas facile à vivre, les temps ordinaires. Le Seigneur nous demande aussi d'être assis au bord du puits, prêt à accueillir celui qui a soif et que Dieu envoie, tandis que nous vaquons à notre quotidien, obligés de passer par la Samarie, parfois fatigués. Nous ne choisissons pas le moment où Dieu va nous envoyer telle circonstance, telle situation, telle personne. Mais notre part, c'est d'être prêt. Ça veut dire d'être en permanence connecté. Nous avons souvent les manettes pour voir si le téléphone il est bien connecté. Est-ce qu'on est, on veille à être bien connecté dans le quotidien, dans la traversée de Samarie qu'il nous faut traverser, dans nos transports, dans la préparation du repas, dans la maman qui travaille, qui tient sa maison, dans celui ou celle qui va à son travail, dans son travail, sommes-nous encore connectés, prêts à recevoir, à accueillir celui qui a soif et qui va venir nous demander. Troisième point, écoutons l'assoiffé que Dieu nous envoie et en même temps, écoutons Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il a écouté la Samaritaine, mais il écoutait son Père. Parce que Dieu va nous montrer sa vie, alors laissons-le parler. J'aurais évoqué, partagé il y a quelque temps avec une sœur qui est dans les soignantes, vous savez qu'il y a plusieurs soignantes, et qui, dans son travail, une circonstance particulière, c'est un travail technique, et quelqu'un qui avait subi une opération, et puis c'était bien passé, mais d'un seul coup, cette personne avait des choses, mais qui n'avaient rien à voir, a priori, avec comme des brûlures, des choses curieuses, rien à voir avec l'intervention très technique qui était venue. Alors, on va voir le généraliste, et puis... on s'est dit, c'est peut-être lié à l'opération, donc on va retourner voir le chirurgien, ils font des examens partout, rien. Et cette sœur, dans le rôle qui était le sien, à un moment, elle prend ça. Et à un moment, ça m'a vraiment parlé comme là. C'est Dieu qui a envoyé cette personne vers cette sœur. C'était curieux ce qu'éprouvait cette personne, c'était... Quand elle m'a raconté, j'ai eu la même pensée qui est venue, quoi. Elle a osé poser cette question. Mais vous n'avez pas pratiqué de l'occultisme ? Écoutez, la personne a dit oui. Et ces derniers jours, en plus. Il y a fait un moment que je n'avais pas fait, mais j'ai... Vraiment quelque chose qui a sonné juste. Et cette femme a été touchée. Les examens ne donnaient rien. L'opération s'était bien passée. On sentait que ça n'avait rien à voir. Quoi. Je ne vous dis pas ça comme demain, à votre boulot, allez. Non. Mais là, cette situation, c'était clair. Cette femme était dans son travail. Elle était connectée. Dieu a envoyé. Il a donné ce qu'il fallait. Au bord du puits. Peut-être fatiguée, traversant la Samarie, traversant notre quotidien. Des temps ordinaires, assis au bord du puits, écoutons la soifée, demeurons dans notre identité et l'on sera prophétique. Des hommes et des femmes signent pour ce temps. Demeurons dans notre identité. En Christ. Pour ça, il faut qu'on soit bien sur nos bases, qu'on sache qui on est, ce qui s'est passé, qu'il est notre justice. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il a été fait. Sans la foi, on ne peut lui être agréable. Et notre foi, pour être fondée, elle doit être nourrie, basée. On doit être enseigné. On doit être bien positionné. Sinon, on est ballotté. Combien de fois, au lieu de cela, nous sommes dans des stratégies qui nous sont proposées et qui ne manquent pas. Pour atteindre ceci, cela, etc. Ne croyons-nous pas que Dieu est tout-puissant pour envoyer, nous sommes 200 ici, là. Ne croyez pas que Dieu est tout-puissant pour envoyer à chacun dans son travail, dans sa maison, la personne. Et si on est connecté, il va nous envoyer. Demeurons dans notre identité et l'on sera prophétique. L'Église, elle n'est pas destinée à diriger le monde en ce temps, mais par contre, elle, si elle n'est pas prophétique, elle n'est pas l'Église. Elle est prophétique, c'est-à-dire des hommes et des femmes signent pour ce monde de la Samarie mélangée et dans la confusion complète. Mais nous serons alors prophétiques si nous sommes placés dans notre identité, séparés, consacrés, sanctifiés, acceptant d'être incompris, acceptant voire d'être moqués. Je ne dis pas nous tenant à l'écart avec une morgue et une condescendance, mais acceptant de porter son opprobre au milieu d'un monde qui a besoin, qui a plein d'assoiffés et qui a besoin de trouver des témoins authentiques. Le cinquième point, il y aura un prix à payer. Il y a un prix à payer. On ne sera peut-être pas compris, on ne verra peut-être pas les fruits, du moins pas tout de suite. Les uns sèment, les autres récoltent. Dans ce même passage, Jésus va dire « Je vous ai envoyé et vous avez moissonné dans un champ où d'autres avaient semé. » Mais peut-être demain vous serez envoyé pour semer dans un champ et d'autres récolteront. Acceptons. Il y a un prix à payer. Mais si nous sommes bien fondés, si nous savons qui nous sommes, nous pourrons tenir jusqu'au bout. Il y a un prix de souffrance, mais qui n'enlève pas la joie. Qui n'enlève pas la joie, au contraire. Si on sait bien où on en est, avec qui on est, et au bord de quel puits on est assis, il n'y a pas de problème. Je vous invite simplement à prier. Je vous rappelle ces quelques mots. Temps ordinaire, assis au bord du puits, écoutez la soifée, demeurez dans notre identité pour être prophétique et acceptez le prix qui est à payer. Nous prions. Seigneur notre Dieu, je te loue, je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, de ce que, quand tu es venu, tu nous montres le chemin. Notre mission n'est pas celle que tu as remplie. C'est toi qui es mort une fois pour toutes à la croix de Golgotha. Et c'est toi le premier en tout. Seigneur, simplement ce matin, nous voulons marcher à ta suite et nous placer sous le joug que tu veux mettre sur nos épaules. Tu le portes avec nous. Je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, pour notre communauté, qu'elle soit une église prophétique, Seigneur, parce qu'elle connaît, chacun connaît son identité en toi et accepte parce qu'il est placé dans un corps, parce qu'il n'est pas seul et nous renonçons, Seigneur, à tout ce qui est de l'indépendance. Je renonce, Seigneur, à tout ce qui est de l'indépendance, du quant à soi, pour être au sein du corps, là où tu nous places chacun, des hommes et des femmes signes pour ce temps tellement dans la confusion. Nous te louons et nous te bénissons, Père. Amen.